Tribune PSG sur France Bleu.
C'est parti avec Edinson Cavani qui donne très très bien.
C'est magnifique.
C'est Lo Celso, me semble-t-il, et qui se retrouve tout seul devant le gardien dans les 6 mètres.
C'est magnifique.
Et c'est donc ce magnifique but
Lo Celso,
inscrit
ouais.
par Lo Celso, l'Argentin.
Et l'action
avec
est
cette
magnifique.
Belle combinaison entre joueurs parisiens, ce centre en retrait. Et donc Giovanni Lo Celso, le petit Argentin, qui se retrouve donc tout seul au 6 mètres. Et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Monaco. Attention avec ce ballon sur le côté gauche. Là, c'est très très bien joué. Petit permet
d'avoir
ce magnifique.
C'est bien joué. C'est bon.
Il est magnifique, ce quatrième but. Quatrième but,
c'est énorme
pour les joueurs de la capitale.
Et c'est une nouvelle
fois Lo Celso, le doublé de l'Argentin sur un magnifique centre du Parisien Pastore. Ce petit exter du droit là qui est magnifique. Encore un but magnifique ce soir. On est vraiment gâtés ce soir de ça.
Ah ouais, et puis cet enchaînement avec Draxler, le 1-2, Pastore, Draxler. Et Pastore qui nous gratifie d'un extérieur du pied remarquable. Parce qu'attention, c'est très dur à faire. Il la dépose littéralement sur la tête de Lo Celso qui n'a plus qu'à la mettre au premier poteau. Et voilà, et 4-0. Et les Monégasques, ils sont pas venus.
Les Monégasques qui sont aux fraises. Et je peux vous le dire, messieurs, Paris est champion.
Allez Meunier tout seul.
Allez Meunier.
Allez Draxler. Eh oui.
Et le 7-1 pour le Paris Saint-Germain avec ce centre en retrait qui finit dans les pieds de Draxler. Et 7-1 donc pour le Paris Saint-Germain. Bravo au Paris Saint-Germain.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tribune PSG, une émission de lendemain de sacre après cette soirée historique pour le Paris Saint-Germain qui décroche donc son 7e titre de champion de France avec un match d'anthologie, on va le dire, où les rois parisiens ont fait passer 7 buts à ces petits princes de Monaco. On reviendra sur cette soirée dans quelques instants. Un petit couac tout de même dans cette soirée à noter, cette ambiance très particulière dans les tribunes, cette ambiance feutrée presque d'opéra pour le récital de la de Don Giovanni Lo Celso, si on peut dire. C'était assez spécial. Avec ce titre, c'est aussi l'heure de faire le bilan. Peut-être pas en se remémorant chaque instant, mais les principaux, et c'est pas fini, avec des records toujours à la portée des Parisiens. Et puis enfin, on parlera des rendez-vous qui se profilent cette semaine. La demi-finale de Coupe de France face à Caen, dans 2 jours, faudra éviter donc le trou normand et aussi le gouffre financier vendredi devant l'UEFA à Nyon en Suisse. Et vous rendez-vous bien entendu la chronique de la Dame de Clic, et on terminera avec notre jeu, le Quiz, le traditionnel jeu du lundi. Autour de la table ce soir, la team du lundi. Tonton Steph, notre tireur de coups francs du week-end sur France Bleu Paris. Stéphane Bitton est avec nous. Salut Stéphane.
Bonsoir à toutes et à tous.
Sacrée soirée hier soir.
Sacrée soirée, petite nuit et sacrée soirée.
Notre dame de clic, Émilie Ross, est aussi là. Salut Émilie.
Salut, ça va bien.
Bah écoutez, ça va,
ouais.
Très bien.
Champion mon frère,
et ça a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux.
Ouais, on va en parler, ça a fait parler.
C'est sûr qu'une soirée de sacre, ça fait parler. C'est la voix des internautes, François 3.0 Dena de Culture PSG. Salut François.
Salut.
Tu t'es ennoblé.
C'est ça.
C'est les titres de noblesse, voilà, c'est les rois, les princes. Voilà. Et donc c'est François ça. Denat, on a eu un festival de buts hier soir, un festival de messages aujourd'hui.
Ouais, on a plein de monde qui est là. Il y a des gens qui demandent où est Bruno, forcément. Et ben Bruno, il est en vacances, messieurs, dames.
Salut Bruno.
Voilà. Salut.
On le salue. On a pris Pierrot.
Il est dans ses montagnes.
Option, très belle chemise, Pierrot.
Et on a
merci.
Bien,
très belle chemise.
J'ai mis le maillot à pois, c'est pour les sommets, le meilleur grimpeur.
C'est voilà. Ça.
En danseuse, mon Pierrot.
En tout cas, il y a beaucoup de nos amis qui sont là. Malgré l'absence de Bruno, il y a Globule, il y a Babacar, il y a Joanny, il y a Rajesh. Il y a beaucoup qui disent champion mon frère.
Et
aussi
oui.
Donc petite dédicace à notre ami Lucas qui est du côté de l'Angleterre et qui
et
était,
on pense à lui.
Voilà, voilà. Un aficionado de cette petite champion mon frère.
Et qui est champion mon frère. Qui va bénéficier. Il y en a 3 qui ne sont plus au Paris Saint-Germain mais qui ont joué cette saison, Lucas, Matuidi. Et il y en a un 3e, ça va me revenir.
En tout cas, il y en a un qui y est et qui ne sera pas champion.
Ah oui, il y en a un qui ne sera pas champion.
On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission.
Ah bah oui, bien sûr.
Notre confrère du Parisien, Bertrand Métayer est aussi présent avec nous ce soir. Bonsoir Bertrand.
Bonjour.
Il est
17h30. On prend un petit peu de... On est encore dans la soirée d'hier.
Il y a un léger décalage horaire à la maison de la radio.
Quel bouquet final dans vos pages sport du Parisien. C'est vrai qu'on a un feu d'artifice.
Oui, on a essayé de se... C'est bizarre parce que voilà, il y a ce titre, il y a la fête qui a été... un peu raccourci au strict minimum, ce manque d'ambiance, c'est un peu bizarre. C'est un titre qui n'est pas fêté. Voilà, les joueurs ont aussi un match dans deux jours maintenant, donc tout le monde est resté assez soft. Et c'est une drôle d'ambiance, faut reconnaître.
Et puis autour de la table également, Nicolas du site parisfan.fr. Salut Nicolas.
Bonsoir, bonjour, comme vous voulez, c'est pareil. Salutations.
Vous étiez dans les tribunes hier. Comment ça s'est passé?
C'était particulier. Des fois, je regardais un peu du côté d'Auteuil en me disant, ils vont peut-être arrêter pour faire la... Non, ils ne voulaient pas. Bon.
Bah écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier thème de cette tribune PSG. C'est un beau titre. Voilà, on a fait le jeu de mots, on a osé le jeu de mots. C'est un beau titre. Si on vous avait dit, il y a 3 jours, allez, le PSG va gagner 7-1 face au tenant du titre, face à son dauphin, Monaco, au Parc des Princes, vous y auriez cru?
Pas du tout.
Ben oui, bien sûr.
Pas 7-1,
évidemment, parce que on avait bien vu qu'il y avait un écart quand même entre les deux. Il y a 15 jours, il y a Paris, on avait déjà mis quand même 3, hein, et ça s'était plutôt bien passé. De là à aller à 7, mais bon, en fait, c'est toujours pareil, c'est le scénario. En 15 minutes, ils prennent 4 buts et après, c'est terminé.
C'est même le 4 à la suite, hein, pour le PSG face à Monaco. 4 victoires d'affilée cette saison.
Ben, longtemps, Monaco a été la bête noire du PSG. Je pense que le PSG est devenu la bête noire de Monaco entre les finales de Coupe de la Ligue et le championnat. Ça réussit plutôt bien à Paris maintenant.
Ça montre surtout l'écart qu'il y a entre Paris et puis le reste des équipes françaises. Voilà, ils ont 2 défaites seulement, vraiment un accro à Strasbourg et puis cette défaite contre Lyon qui est peut-être un petit peu plus méritée, mais c'est presque normal sur une saison de perdre. Mais face au champion en titre qui reste le dauphin et qui a des grandes chances de le rester. Voilà, autant de succès, 4 succès d'affilée cette saison, montre le gouffre qu'il y a désormais entre Paris et les autres, et montre que l'année dernière c'était peut-être l'exception qui confirme la règle, mais en l'état actuel des forces,
Monaco a été très affaibli l'été dernier en perdant six titulaires et pas n'importe lesquels. On se doutait bien, d'ailleurs on a très vite vu, je pense que le soir où Paris a gagné à Monaco, moi perso j'ai dit ça y est, c'est bon quoi, on sait que ça se joue là-bas. Si Monaco gagne, ils vont peut-être résister quelques temps. Là c'était déjà plié, donc il y a longtemps qu'on sait que Paris serait champion. Après, on attendait la validation mathématique. Mais...
Justement, Stéphane, on avait l'impression, voilà, on se disait, ça y est, ils vont être champions, ils sont leaders depuis la 3e journée du championnat. C'est pas n'importe qui quand même en face. Ils sont Monaco, ils étaient invaincus depuis 17 matchs. Ils avaient d'ailleurs aussi au Parc des Princes.
Et le match était bizarre quand même.
Mais oui. Paris, c'est pas n'importe qui aussi. Regardez hier sur le terrain ce qu'il y avait quand même.
Il y a des absents.
On voit le Paris Saint-Germain, il y a plusieurs façons de le voir. On peut le voir avec l'absence de Neymar et d'Mbappé. Évidemment, c'est les deux qui étaient venus renforcer l'équipe. Mais il y a quand même du beau monde. Quand Pastore se remet à jouer et qu'il a envie, c'est trois passes décisives, je crois. Quand Di Maria met un doublé, quand Lo Celso est en pleine forme, tout de suite, c'est un autre match. Et évidemment, personne ne peut suivre en France ce rythme-là. Quand Paris est sérieux, Paris peut battre n'importe quelle équipe française.
Faut pas oublier que... À domicile, on est intraitable cette année, mais intraitable de chez intraitable. C'est-à-dire qu'on a mis 51 points sur 51 possibles.
Ça, c'est un beau record. Je me rappelle, moi, qui ai connu ces années-là, de Saint-Étienne, qui l'a fait en 74-75. 19 matchs à domicile, 19 victoires. Paris en est à 17/17. Ça paraît pas insurmontable. Il reste Guingamp et Rennes, je crois.
C'est ça. Ouais, puis on peut remercier Unai Emery qui, au départ, contre un gros, enfin contre vraiment le dauphin, a mis 5 attaquants parce que.
J'allais vous le dire.
Lo Celso et Draxler, ce sont des attaquants, c'est des joueurs très très offensifs, même s'ils jouaient dans ce milieu de terrain, avec des latéraux, qui essayent toujours aussi d'apporter. Voilà, il a mis les éléments en place pour avoir un festival d'attaque.
ça a fonctionné tout de suite, ce qui a vraiment cassé le moral de Monaco et tué le match d'entrée. Mais voilà, on peut le remercier pour ça, parce que voilà, il a quand même laissé sur le banc Lassana Diarra, Thiago Motta.
Étonnant d'ailleurs que Thiago Motta n'ait pas participé.
Même pas joué. Cette, ouais.
Parce qu'on a souvent critiqué quand même les choix d'Unai Emery.
Tu m'étonnes.
Là, c'est quand même sacrément gonflé hier soir face à Monaco de se dire allez, c'est l'offensive, la carte de l'offensive. On est parti, on va y aller, on sort l'artillerie lourde.
Oui, quoi. Mais quand vous reprenez la. Déjà, il y avait Raghi. Et quand vous avez Raghi à Monaco, vous savez que vous avez déjà quasiment un but d'avance. Hein, parce que le garçon, malheureusement, là, il dénote très nettement dans cet effectif. Peut-être par son âge, peut-être par son passé, j'en sais rien. Mais voilà. Donc je pense que ça aussi, ça a dû inspirer Unai Emery au moment de sa compo. Il a vu qu'il y avait sûrement des failles. Et bah, ça a été très vite, je crois. Un but dès la 10e minute et à la 28e. Il y avait déjà 4-0.
Donc, le fait qu'il n'y ait pas Glick, déjà, un code défense sans Glick, c'est plus pareil. Et puis Subasic, il était bizarrement pas très en forme. Normalement, il fait des arrêts hier.
Bon, je crois que personne n'était en forme à Monaco hier soir. Ils sont passés à côté. J'ai trouvé extraordinaire la phrase de Jardim. C'est le pire match de ma carrière d'entraîneur. Ouais. C'est une honte. Et c'est vrai que.
Ils ont même remboursé
Monaco pouvait perdre, ils n'étaient pas obligés d'en prendre 7. Ça fait beaucoup quand même.
C'est aussi le match des revanches, si l'on peut dire. Il y a des joueurs qui sont revenus. On peut penser à Cavani, à Lo Celso, qui avait pris un sacré coup.
Même je veux savoir qui a parié sur le doublé de Lo Celso. Je veux le nom. Trouvez-moi le nom de la personne qui a osé parier
gens,
sur un doublé, quoi.
Dont un but de la tête. Ouais.
Non, mais oui, Ticha. Mais oui, c'est fantastique.
Ce qu'il fait. Après, c'est surtout que Lo Celso, quand on le met à sa place, bah, c'est pas mal, parce que c'est un vrai relayeur. Unai Emery, un peu contraint et forcé, parce qu'il voulait pas froisser Adrien Rabiot, l'a installé à ce poste de sentinelle, en l'absence de Thiago Motta. On a vu que ça fonctionnait dans le championnat de France, et qu'il pouvait pas passer le cut en Ligue des champions, mais c'est quand on le met à son vrai poste qui est milieu relayeur très offensif dans une équipe qui dominait largement les débats et on voit que c'est un garçon très précieux pour les prochaines saisons, un garçon de complément entre guillemets, qui n'est pas une star, qui est complètement dans l'esprit et qui dans le vestiaire fait beaucoup de bien parce que dès qu'il est sur le terrain, il répond présent. Et hier, il l'a prouvé dans cet effectif de star qui va continuer à exister à Paris. Il sera jamais un titulaire indiscutable.
Non, mais c'est très juste que tu dis de complément.
Mais il sera toujours
une
là.
Une belle pépite de complément.
Il est au niveau.
Quoi.
Ouais. Ça fait un an qu'il est dans le haut niveau. Il est quand même déjà en passe de jouer la Coupe du Monde, quoi.
C'est pas rien. Force mentale.
Et pourtant, il a joué énormément.
Il va la jouer la Coupe du Monde. Il va la jouer.
Enfin, il va y aller. La jouer, je sais pas, mais il va y aller.
Je pense qu'il aura un petit peu de temps de jeu quand même. Il fera pas partie de.
Mais c'est vrai qu'on s'interrogeait quand il est arrivé. Pendant presque un an, il a pas joué. C'était pas très. Enfin, on
il
comprenait
a fait
pas.
Il savait... discrète, c'est vrai.
Très, très discrète. Très discrète. Et en fait, il travaillait dans l'ombre. Et il a montré aussi qu'il avait bon esprit.
C'est plus réel aussi qu'on
l'avait
pas vu.
Il a jamais.
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Voir un peu ce qui se passe depuis le début de l'émission, François.
On a Thibaut notamment qui nous dit Lo Celso nous fait une belle surprise. Ça fait plaisir car finalement, c'est le futur du PSG. On a Globule qui lui dit hier, on joue à trois meneurs de jeu, ce qui change tout.
Bah, qui change tout contre une équipe. Qui change tout contre cette équipe de Monaco. Voilà. Si, face à une adversité un peu plus rotor, on peut pas jouer forcément avec trois meneurs. Ouais, voilà. C'est pas possible. Ça, ou même contre le Lyon qui avait battu Paris, qui était beaucoup plus agressif, beaucoup plus organisé.
Voir le Marseille du match aller.
Paris n'a quand même pas spécialement dominé dans le jeu ou la possession. Je trouve que Monaco a eu la balle et Paris a fait des comptes.
45, magnifique.
Quand tu regardes les stats, c'est d'habitude.
Exactement. Ça se vaut en fait.
Ils ont une efficacité qui est assez impressionnante.
Ouais. Subasic, tu fais un arrêt, après il prend
des gestes aussi. Des gestes, là, on voit.
L'extérieur de Pastore.
Oui, non, mais
la phase de Cavani.
Là, on voit que c'est vraiment des joueurs de foot de grand talent et qui sont un cran au-dessus. Quand ça se met à jouer, à circuler comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes.
Même Berchich, il a fait le taf, Pépère.
Ah bah, plutôt, c'est probablement son meilleur match de la saison. Hein.
Oui. Mais c'est ça aussi qui est hallucinant, c'est que là, la maillot, elle a pris direct, en fait.
Il n'a pas souri, c'était marrant. Et j'étais sur le bord de touche, justement. Au moment où il fait son centre, et à la fin, il y a but, et là, il est comme ça.
mais je pense qu'il intériorise. Attends.
Vénère,
ah, il est resté toujours avec le mal
scénario. Alpha, le scénario est essentiel. Voilà, quand vous prenez vite l'avantage, hein, ça facilite les choses, ça libère tout le monde. Quand il y en a deux et trois qui arrivent derrière, et bien après, il n'y a plus qu'à.
Il y aurait un 4-2 en début de deuxième mi-temps, ça va peut-être changer un peu le match aussi. Quand Pastore fait une passe presque décisive pour Falcao, je crois, dans la surface. Areola l'arrête, mais s'il y a 4-2, peut-être que le match il change.
Il peut retourner, ouais.
Ouais, changer le match, je crois pas. Il y avait une telle emprise, il y avait une telle facilité. On a l'impression qu'ils avaient vraiment pris un coup sur la tête. La blessure de Sidibé, je pense qu'on peut jouer aussi.
Et même quand Monaco marque, personne ne croit au parc qu'ils vont remonter ou quoi que ce soit. Même les joueurs de Monaco n'y croient pas. Ouais, ils ont sauvé l'honneur, quoi. Ils savent déjà à ce moment-là qu'ils ont sauvé l'honneur, que 4-1, c'est moins.
C'était le dernier gros match de la saison, selon
vous. Oui. Évidemment.
Grand match en termes d'adversité. Après, il reste un titre à aller chercher. Il faut faire le taf là dans deux jours à Caen. Après, s'il passe, jouer cette drôle de finale contre un club de national.
Il va falloir être extrêmement respectueux, ça jouera dans les têtes.
Voilà. Mais non, il y a quand même un titre à aller chercher. Alors certes, il n'y a plus d'affiches, c'est fini.
Mais il y a un titre, et pas
n'importe quel titre. Sans dénigrer la Coupe de la Ligue, elle a quand même moins de valeur qu'une Coupe de France.
Il y a plus de matchs pour arriver en finale, beaucoup plus d'adversité. Et puis ça reste quand même un doublé Coupe Championnat.
Et puis il va y avoir de l'attente quand même. Parce que les Herbiers Chambly, quoi qu'il en soit, une affiche avec Paris, on le souhaite. Je pense qu'il y aura quand même un match spectacle, à mon sens. Donc il ne faut pas.
La chance, entre guillemets, du PSG, c'est cette Coupe du Monde où il va falloir que les garçons restent dans le rythme, restent concentrés. S'ils savaient qu'ils étaient en vacances après le dernier match contre Caen, voilà, ils pourraient laisser filer les derniers matchs, lever le pied à l'entraînement. Là, ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont aussi des perspectives.
Ouais, donc, des records à les battre, effectivement.
Alors, je suis pas persuadé que les records passionnent les joueurs.
On va en reparler dans une prochaine partie de l'émission. Je vous propose qu'on passe au deuxième thème. C'est sur cette ambiance. Cette ambiance au Parc des Princes hier soir, qui était vraiment très particulière, une atmosphère, donc on se serait cru à l'opéra, hein, une ambiance, je disais tout à l'heure, l'ambiance Louis II, hein, comme à Monaco, après l'appel du collectif Ultra Paris qui avait demandé une tribune morte en réponse aux sanctions de la Ligue. Je me tourne vers Nicolas de parisfan.fr. Vous, en tant que supporter, comment vous avez vécu ça, quoi? Est-ce qu'il y a une tristesse quand même de voir ce parc, un soir de sacre, un soir de 7-1 face à Monaco, de voir ce parc mort?
Un peu quand même, parce qu'il y ait des fois des grèves, des boycotts, pourquoi pas, je ne suis pas toujours d'accord. Mais sur ce match-là, où on veut faire la fête, en plus les joueurs ils font tout ce qu'il faut, ils mettent le 7-1, on aurait aimé qu'au bout d'un moment le parc puisse chanter, mais là, même quand les tribunes sur le côté se mettaient à chanter, on a l'impression qu'elles n'avaient pas le droit, qu'il fallait pas, du coup tout le monde s'arrêtait.
Il y avait le tout-puissant Cube qui avait déclaré tribune morte, donc forcément, dès qu'il y en avait qui chantaient, comme Émilie par exemple, il se faisait reprendre de voler.
On avait un rédacteur qui était.
C'est ridicule à mon sens, effectivement.
Mais j'ai un rédacteur qui était en tribune morte.
Des gens qui sont plus contre la Ligue que pour supporter leur club. Et c'est...
Non, mais t'as aussi un manque d'élan.
Moi, je trouve ça absolument ridicule. Je suis désolé. Je vais peut-être mettre le pied où il ne faut pas le mettre. C'est donner trop d'importance. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est plus sympa quand le stade fait du bruit. L'histoire retiendra le 7-1 et dans un an, dans deux ans, tout le monde aura oublié qu'il y avait la grève de 470 mecs qu'on n'a pas laissé rentrer ou qu'on n'a pas décidé de faire du bruit. On se rappelle, voilà, moi qui ai un long passé au Parc des Princes, les choses que je retiens, c'est pas les boycotts des supporters ou des pseudo-supporters ou des gens qui s'autoproclament avec un pouvoir supérieur à ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es spectateur au Parc des Princes, tu viens d'abord voir un match. Hier soir, on a vu un magnifique match. Paris est devenu champion de France pour la 7e fois. C'est génial. Bravo, c'est la récompense de toute une saison. Qu'après, j'aime bien, j'adore la belle ambiance. Il n'y a pas eu beaucoup d'ambiance, effectivement, ça ne m'a pas du tout gâché ma soirée. Je suis rentré très heureux du parc.
Alors, moi, j'ai eu l'impression quand même de mater un match à Roland-Garros, pour ceux qui connaissent un peu l'ambiance.
Il y a pratiquement un score de tennis.
Avec un score et tout. Non, mais après, au moins, le message est passé. Je pense qu'il y avait effectivement une revendication. Mine de rien, c'était, je pense, le bon soir pour le faire parce que ça a marqué les esprits. Et je suis désolée, mais effectivement, quand il te manque dans le public le chef d'orchestre qui lance les chants, qui lance le truc, t'as beau essayer effectivement le parc debout, quand t'es 4 ou 5, il te manque le chef d'orchestre. Et moi, pour, si tu vas au stade, c'est aussi pour l'ambiance. Je suis d'accord avec toi, bien évidemment, les buts et tout, mais tu te dis, c'est à la fin, ah,
il manque quelque chose.
Mais grave qu'il manque quelque chose.
On est d'accord que quand il y a une bonne ambiance, c'est bien, c'est encore mieux. Enfin, hier soir, les gens, je suis rentré avec les gens, j'étais au parking, tout le monde avait l'air extrêmement heureux et du score, tout le monde se marrait, tout le monde était content, ça chambrait, bref, il y avait une bonne ambiance, ça sentait pas du tout un soir de défaite.
En même temps, moi, j'ai juste que par rapport à ce positionnement du CUP, au moment où il y a eu ce craquage massif de fumigène, il savait très bien qu'il y allait avoir une réaction de la commission discipline de la Ligue. Donc voilà, on savait que ça allait tomber. On tombe pas des nues. Et quand même le président Nasser Al-Khelaifi, après le match, met une petite mine à la Ligue en disant « Ouais, peut-être qu'on aurait pu faire avant ou après. » Ouais. Bah, oui, mais bon, il y a un moment, il y a une réglementation. On a le droit de penser qu'on veut pouvoir utiliser du fumigène. Mais bon, il y a un moment, il y a une règle.
C'est pas un fumigène qui est rentré, je crois qu'il y en a eu 72.
Ouais, c'est dans ces eaux-là, une soixantaine.
C'est ça qui est bizarre.
Alors, tu connais la règle, si t'en allumes un, tu te fais déjà piquer. Si t'en allumes 70, tu t'attends à quoi?
Ça fait beaucoup réagir. Le sujet des supporters fait beaucoup réagir sur notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter.
Les supporters, je vois que pour réagir.
Mais ça réagit des deux côtés. Hein. On a Benjamin qui nous dit les supporters ont raison de protester. Ils ne sont pas des vaches à lait juste là pour agiter des drapeaux et chanter. Le match du titre, c'était le meilleur moment pour faire entendre leur mécontentement. La grève, tout le monde l'a entendu hier. Globule qui dit le CUP met une belle ambiance quand il est là. Mais si c'est pour retomber dans les travers qui ont conduit à la mise à mort des ultras, stop. On dirait que certains n'ont rien retenu de l'histoire. Vouloir passer en force avec les fumis notamment, c'est le meilleur moyen de perdre.
On ne fera pas le débat ce soir sur les supporters, mais je trouve l'attitude des clubs de foot en général vis-à-vis des supporters totalement démago. Voilà, on fait croire à des gens qui sont essentiels. Ils sont essentiels pour faire du bruit, ils sont essentiels pour mettre de l'ambiance, ils ne sont pas essentiels dans le fonctionnement et dans la réussite d'un club.
Non, mais ça te donne la motivation quand même quand tout le monde chante, etc. Enfin, le deuxième homme, il existe.
Populaire,
le deuxième homme existe.
On est perdu contre
Madrid quand même. Les meilleurs gagnent qu'ils aient un deuxième homme.
Le Real Madrid a un stade absolument mort, et ça les empêche pas de gagner.
Si vous avez assisté à des matchs à Barcelone.
Mais évidemment que c'est plus sympa que.
Voilà, on est d'accord. Non, mais on n'est pas en train de dire.
Après, c'est une très bonne idée, quitte à faire grève. Pour qu'une grève fonctionne, il faut qu'elle fasse chier les gens, pour qu'elle se remarque.
Penses à la SNCF ?
Mais toutes les grèves.
Sans transition.
Mais voilà. Enfin, moi, j'ai déjà fait grève dans mon métier où on sait qu'on emmerde les gens parce que on les empêche d'avoir un journal, certains de rouler dans les trains. Ils ont démontré effectivement que le parc sans supporters et sans chants, c'est moins bien. Effectivement, Stéphane a raison. Dans 6 mois, tout le monde n'a pas changé le score.
On n'a pas oublié le plan Leproux.
Voilà.
On n'a pas oublié le stade.
Un peu cette ambiance du plan Leproux.
Exactement ça. Mais pendant 3 ou 4 ans, voire 5, on a eu un stade qui était archi mort.
Mais pourquoi c'était... on a eu ça?
Parce qu'il y a deux mecs qui sont morts, mais c'est pas le débat.
C'est pas de ça dont on parle.
On est en train de dire.
Tu parles du plan Leproux. Oui. Il est pas venu par hasard, le plan.
Je dis pas qu'il est venu par hasard.
C'est quand même un peu dommage d'aller voir un match de foot et de mourir. Moi, je trouve.
C'était pas le débat. C'était pas là-dessus que je voulais amener le débat.
Mais t'as parlé du plan Leproux. Le plan Leproux, il est pas arrivé par hasard.
Non. Je parlais juste du fait qu'on avait un stade qui était éteint pendant quelques années.
Après, eu des beaux matchs, moi, ça m'a pas.
La différence entre public et supporters. Est-ce qu'on a plus un public parisien ou des supporters parisiens?
On sait très bien qu'une grande majorité des gens qui viennent au stade viennent voir un spectacle, ne sont pas là pour chanter pendant 90 minutes, se lèvent pendant les buts et voilà. Enfin, toutes les tribunes latérales.
Les premiers buts à la 46 et 47e, car ils sont encore au buffet.
C'est vrai. Évidemment, mais on l'a connu à l'époque où il n'y avait pas les ultras. On l'a aussi connu à une époque l'époque où il y avait les ultras et où le parc était à moitié vide. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une quinzaine d'années, le parc était loin d'être plein.
L'année où, du premier titre, puisqu'on parle aujourd'hui des titres de champion, en 85-86, il y a 22 000 spectateurs de moyenne au Parc des Princes pour l'année où ils sont champions, avec Suzy, Crocheteau et tous les autres. Je faisais partie de ces 22 000 de moyenne.
C'est quand même plus sympa quand c'est rempli, t'es d'accord?
Tout à fait. Ah non, mais attends, mais voilà, c'est, je pense qu'il faudra faire une émission un jour là-dessus. Je suis pas contre les supporters. Non, je dis juste qu'ils sont un des éléments importants, mais pas essentiels.
Prochainement, dans Tribune PSG, voilà, le débat sur les supporters. On va passer maintenant à l'un des rendez-vous de notre, du lundi. Hein, c'est la chronique de la Dame de Clique.
Ah bah oui, attends, c'est à moi.
Oui. Alors.
Elle n'est pas prête, la Dame de Clique.
Bah si, elle est totalement. Elle est toujours prête, la Dame de Clique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Par
alors,
quoi
bah
on commence?
Déjà, cette soirée d'hier, quand même.
Alors, cette soirée d'hier, forcément, elle a fait parler sur les réseaux. Il y a eu, on va dire, trois thématiques. La première, quand même, le parc silencieux. Mais on vient d'en parler, donc voilà.
Je ne voulais pas te casser ton effet.
Ouais. des réactions aussi, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été fouillés dans le profil de Neymar pour voir ce qu'il faisait lors du match. Et ce qui a beaucoup fait parler, effectivement, c'est que Neymar était en train de jouer au poker et l'a posté sur Instagram. Donc voilà, tout le monde l'a repris en disant, et pendant ce temps-là, Neymar joue au poker. Donc je tiens juste à dire qu'après, sur son profil Instagram, il a quand même posté la photo de l'équipe pour dire qu'ils étaient champions, etc., avec... toutes les félicitations.
Il y avait son double au Bourget aussi, hein, dernièrement.
Alors ça m'a fait marrer parce qu'effectivement, tout le monde a dit non. Il y a quelques comptes sur Twitter qui ont repris une photo de Neymar en disant Neymar, vu au Bourget, il sera là pour la célébration du titre. Mais pas du tout, les gars, vous faites un Google Image et vous voyez que c'est effectivement l'arrivée de Neymar au Bourget, mais quand il a signé son contrat. Donc voilà, mais ça a occupé quelques personnes, c'était pas mal.
Sixième semaine hein, sans nouvelles de Neymar, qui doit nous dire qu'il reste. Le tonton. Eh bien voilà, donc sixième semaine sans un « je reviens » ou « je serai content d'être là l'année prochaine ».
Petit tweet sympa de Dijon. Rappelez-vous, Dijon avait quand
8-0.
Même avait morflé. Ouais. Dijon a donc adressé un tweet de soutien à l'AS Monaco en disant que l'AS Monaco se rassure, on s'en remet très bien. Bravo au Paris Saint-Germain pour le titre. Et ce qui a fait parler aussi, c'est que l'AS Monaco a donc décidé, tu le disais tout à l'heure, a pris la décision de rembourser les supporters présents dans la tribune visiteur au match. Les modalités seront communiquées en début de semaine, etc. Et forcément, ça a fait réagir. Alors, des pour, des contre, mais effectivement...
C'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand je l'ai lu. J'ai trouvé ça marrant quand même. Ça prouve deux choses. Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de supporters qui se déplacent. Et ça prouve que Monaco a de l'argent pour pouvoir payer les supporters qui sont venus et qui n'ont pas été satisfaits du spectacle. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle.
Moi, en termes de com', j'ai trouvé ça très malin. Après, effectivement, il y a eu plusieurs interprétations, mais... par contre, je suis pas sûr qu'il l'ait fait pour faire marrer parce que tu vois que le truc est hyper sobre. Mais en termes de com, c'est très malin. Et en tout cas, ça avait fait réagir.
Est-ce que les copains de Caen, ils sont toujours très drôles, les copains de Caen? Ils ont pas
fait
des
malheurs. Ils ont fait quelque chose, tu sais, le gif où tu vois un gamin qui rentre et qui repart sur la pointe des pieds. Ils ont fait ça, ils ont fait un mercre.
Et attention, parce que là, il y a nos confrères de France Bleu Normandie qui sortent l'artillerie lourde parce qu'il y a plusieurs soutiens de poids, plusieurs soutiens normands. Il y a notamment Michel Drucker, qui est virois, donc proche de Caen, qui apporte son soutien au Stamaerde de Caen. Il y a Denis Brognard aussi. Alors attention,
Denis Brognard, non, il est toujours au match.
Pigiste sportif de nos confrères de France Bleu Normandie.
Et comme quoi, ça mène à tout.
Et ben voilà.
Ça va être chaud, hein, du coup. Ils ont des gros soutiens quand même.
Ouais, c'est
attendu, attention. Moi, je vous dis, c'est
Miss France qui était là aussi souvent dans les matchs.
Oui, Malika Ménard. Voilà, elle n'a pas encore tweeté. J'ai pas vu de tweet de Malika Ménard.
De quoi quasiment faire déclarer forfait au Paris Saint-Germain de peur d'affronter tous ces gens-là en plus du 11 canet.
Et le coup d'envoi donné par
Orelsan,
c'est ça?
L'enfer de
Marc. C'est bien.
C'est la fête.
Il va pas falloir déraper.
Bon, juste un petit mot des internautes qui regrettent vivement l'absence du générique de la Dame de Clique au début de sa chronique.
Oh, c'est mieux. Je vais vous le chanter
production
après.
La production, laisse
aller dire. Je n'ai pas encore les automatismes de Bruno.
T'inquiète pas,
excusez-moi.
Attends, on change rien à la qualité.
Non, il tire. Non, mais ceci dit, c'est vrai que ce match de camp... Non, on ne parle pas du match de camp, en fait.
J'avais non, je suis toujours sur ma chronique, les gars. C'est mon moment, s'il vous plaît.
Tu nous as pas dit que
On continue.
Oui, avec Kevin Trapp, qui fait mumuse, lui.
Avec Trapp, alors c'est pareil, on a vu ça sur son Instagram. Donc il y a une caméra cachée qui a été tournée par le PSG et tu vois Trapp grimé, casquette, moustache, lunettes. Et donc on prévoit une caméra cachée auprès d'enfants. Et voilà, un peu comme on a vu, je sais plus quel était le joueur de l'équipe étrangère. Enfin, il y a beaucoup de caméras cachées comme ça où les enfants découvrent les vrais joueurs. Et là, donc, on voit Trapp qui interviewe des enfants, mais du coup, il est grimé. Et donc, on attend de voir le résultat qui n'est pas encore sorti à date.
On connaissait la danse du charreau avec Matuidi. Eh bien, on a la danse du chariot.
Bien joué!
Entre Di Maria et Cavani.
Et toi, tu bosses, Pierrot. Moi, ça me fait plaisir. Bon. Exactement. Parce que, alors, cette vidéo, elle ne sert strictement à rien. Elle est parue sur Instagram aussi, dans les stories de Di Maria et Cavani. Vous les voyez tous les deux. Vous vous souvenez, dès l'instant que tu vois un chariot, tu sais, un chariot pour pousser des trucs, voilà. Il y en a un au-dessus, un en dessous. Et ils ont fait une course de chariot dans les vestiaires. Moi, ça m'a fait marrer. Pourquoi? Parce que Cavani sur un chariot, déjà, enfin, tu vois, on dit oui, il est très sérieux, il est très machin. Eh ben, il peut s'amuser. Et le binôme Cavani Di Maria, moi j'ai dit les gars, c'est chariot, c'est pas mal. Mais c'est bien la danse du chariot.
Je connais des gens dans les bureaux qui font ça avec des chaises, ça marche très bien aussi.
Oui, la course de. Voilà.
Alors là, lui, c'est pas les chariots, mais c'est plutôt les plongeons. Il est habitué aux plongeons. C'est Alphonse Areola. Pas étonnant qu'il investisse dans une piscine.
Exactement.
Moi,
je l'aime bien, cette chronique. Hein, parce que... Alors, j'ai jalousé les filles d'Alphonse Areola ce week-end. Il faut savoir que, toujours sur Instagram, Alphonse Areola et sa femme ont posté effectivement donc, des vidéos. Ils sont partis acheter une piscine à boules pour leur gamine. Donc tu vas à la piscine, ils les ont remplis de balles en plastique.
Ambiance, un grand magasin suédois qui fait des meubles.
Et écoute, ils ont filmé ça. Donc tout le week-end, tu vois les gamines qui s'éclatent là-dedans. J'ai trouvé ça, très chou. Et j'ai vraiment jalousé le concept parce que moi, j'en ai jamais eu, en fait, de piscine.
Eh bien, on va demander à nos amis de France Bleu de remplir pour la dernière de la saison.
Pour la dernière,
on se jettera dedans et on se jettera dedans.
Attention les miasmes, parce que...
Après, il faut un grand salon quand même. Il faut un peu d'espace.
C'est une petite piscine.
C'est des petits enfants. On va rester dans le choupinou avec le carnet rose de Thomas Meunier.
Oui, Thomas Meunier qui a effectivement officialisé la naissance de son deuxième enfant sur Twitter et Instagram en expliquant que son enfant était né effectivement un week-end de Pâques et qu'il était un petit peu occupé mais il avait été polyvalent. Donc en tout cas, il a officialisé la naissance de sa deuxième merveille, comme il l'a dit.
Et on se finit avec Marquinhos.
Marquinhos qui m'a fait marrer. Rarement les joueurs, ça s'est passé sur Twitter, et rarement les joueurs répondent aux tweetos. Voilà, vous avez beaucoup de joueurs qui postent des trucs et puis après forcément ça n'interagit pas forcément.
Il n'y a pas de service après-vente.
Exactement. Sauf que là, Marquinhos a posté une photo de lui en disant « je suis un beau gosse ». Vous savez, il avait fait un peu ce slogan-là en disant « je suis un beau gosse ». Un tweetos a repris la photo en disant « ouais, enfin il y a quelques années t'étais comme ça ». Et Marquinhos,
en claquant la photo, il était pas croquignolé.
Donc on lui a reclaqué la photo, et donc à ça Marquinhos a répondu au gars en disant il y a du progrès quand même.
Par contre,
il a écrit quand même. Donc il s'est fait retoper par les tweetos en disant mais non mais pas toi, tu peux pas écrire quand même. On écrit quand même. Et il a répondu à nouveau en disant je suis désolé mais parler français c'est un peu compliqué. Parler français c'est un peu compliqué, ne m'en voulez pas. Mais voilà, donc il y a eu un petit ping-pong avec Marquinhos. Moi, je l'aimais déjà beaucoup et je l'aime encore mieux quand tu réponds à tout le monde. Voilà.
Eh bien, super. Cette chronique de la Dame de Clic, merci beaucoup.
Merci
Emily.
À toi, Pierrot, d'avoir bossé. Ça a un
rapport avec la Dame de Pique ou pas du tout?
Quasi, je t'expliquerai. Quasi.
On va revenir maintenant sur la saison. Troisième thème de notre tribune PSG, une saison au sommet au niveau national. Ce titre, il faut pas le galvauder, on en parlait, hein, c'est le 7e, il reste 5 journées à jouer, c'est fait, le PSG était leader depuis la 3e journée.
Il va le rester donc.
Il va le rester. C'est une équipe qui aurait pu tomber après Madrid, a expliqué Unai Emery. Comment on l'explique ce succès des Parisiens sur la scène nationale?
Déjà par la supériorité évidente de son effectif, mais c'était déjà aussi le cas l'année dernière, a priori au début de championnat, même si Monaco avait du beau monde, mais au départ du championnat, tout le monde était persuadé que Paris allait se succéder à lui-même. Donc quelque part, c'est aussi parce que c'est Moi, je me souviens d'un Blaise Matuidi pendant des années qui, match après match, disait, vous vous rendez pas compte comme c'est difficile d'enchaîner les rencontres, de se motiver à chaque fois. C'est une vraie performance. Les coachs le répètent assez souvent. On a l'impression que c'est une antienne, que voilà, c'est quelque chose qu'on répète à l'envi. Et en fait, c'est quand même effectivement compliqué, même si battre Troyes, Strasbourg, Guingamp, Lille.
Strasbourg, ça a pété. Ouais.
Bah, ils ont quand même gagné au moins une fois.
Je pense que ils ont été sérieux.
Pour expliquer aussi le pas titre de l'année dernière, c'est aussi le renouvellement d'un effectif. Et cette année, Paris s'est quand même bien renouvelé. Neymar, Mbappé et Daniel Alves, ça fait déjà pas mal, sont arrivés. Et c'est ce qui a manqué, parce que quand on repense aux 7 titres consécutifs de Lyon, finalement, sur les 7 titres, il n'y a que 3 joueurs qui participent aux 7. Ça veut dire que tout le reste, il y a eu un grand brassage. Et à Paris, l'année dernière, il n'y a pas eu de grand brassage. On est resté sur la lignée des années blancs. Et c'est pour ça que l'année dernière, Paris a laissé passer le titre. Il fallait du 109. Et c'est ce qui a permis cette année, outre bien sûr la qualité de l'effectif, mais aussi ça a relancé, ça a mis des gens en concurrence et ça
a... Ce qui a changé aussi, c'est que le banc a tourné. C'est Didier Deschamps, un joueur qui m'a expliqué ça dans une interview. Il dit, dans les grands clubs, le plus compliqué, c'est le banc qu'il faut changer, c'est pas les stars. Parce que rester toute une saison et jouer que des bouts de match ou des petits matchs, entre guillemets, c'est compliqué. C'est aussi un petit peu ce qui s'est passé. Donc il y a eu un renouvellement à la marge, mais suffisamment significatif pour effectivement garder cette dynamique et ce sérieux tout au long de la saison. Mais
pour le sérieux, il y a aussi, je pense simplement, que les joueurs du PSG ne pouvaient pas se dire on peut louper le titre 2 années de suite. Normalement, je pense que même si ça peut être dur de se motiver à chaque match, de se dire « Ah, ben, on joue contre Dijon », ils ont loupé le titre une année, ça a été mal vu. Je pense qu'ils l'ont mal vécu. Je pense que l'année d'après, ils se sont dit « Non, mais là, on doit le prendre, on va faire tout ce qu'il faut ». Ils l'ont bien montré hier. Ce que je sais pas, c'est ce qui va se passer sur la fin, sur les derniers matchs. Là.
Non, je pense qu'ils vont aller au bout. Sur la dynamique, je les vois pas s'effondrer du tout.
Il y a une Coupe du Monde dans pas longtemps.
On va voir les internautes
sur Internet.
On a Alexandre qui nous dit on banalise trop les triplés du PSG, donc d'accord avec cette idée. Et on a Frédéric qui nous dit l'équipe la plus dangereuse, en l'occurrence Monaco, c'est largement affaibli, donc pas de concurrence. Samuel, de son côté, lui dit que le fait que la SM, l'OL et l'OM se battent pour le podium, c'est peut-être les prémices de l'instauration d'une concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non. Enfin, je vois pas aucune de ces 3 équipes. Il y a un énorme écart entre le Paris Saint-Germain et les autres. Et on le voit sur le nombre de points, évidemment. C'est un gouffre. Aujourd'hui, personne ne peut battre Paris quand Paris joue de façon motivée et a envie de déployer, donner le maximum. Donc, en France, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir du temps. Moi, j'ai cru à un moment en Lyon qui avait un bel effectif. Le Monaco de l'année dernière l'a fait et a bien résisté. Mais aujourd'hui, quand on voit Marseille, quand on voit Lyon et quand on voit Monaco, Paris a un boulevard devant lui.
Si vous deviez retenir qu'un seul match de cette saison du Paris Saint-Germain, allez, on va faire un petit tour de table. Bertrand, quel match vous retenez?
Peut-être le match contre Dijon, parce que à la fois il a montré la victoire 8-0, l'énorme supériorité de Paris, et en même temps tout ce qui peut, tout ce que génère ce club et qui limite peut-être son ascension avec le penalty gate. Parce que on voit que il peut y avoir le moindre grain de sable dans ce club, cette institution, son environnement.
Il est très représentatif.
Peut devenir une sorte de tempête qui met à mal le club et sa progression. Donc il y a cet énorme succès, c'était un match incroyable sur le terrain. Et au lendemain de cette rencontre, on ne se souvenait plus que de cette histoire de penalty qui a mis des semaines à être réglée en interne, qui a suscité des polémiques et des débats sans fin. Alors que c'est quelque chose d'assez banal dans un autre club, mais qui passe assez inaperçu. Et c'est la difficulté de Paris, qui écrase son championnat, qui a des qualités footballistiques énormes, mais à qui il manque toujours un petit quelque chose pour passer un cap, et on le voit en Ligue des Champions.
Nicolas ?
C'est pas facile. Un seul match, peut-être en négatif, moi, c'est la défaite à Lyon. En dehors du fait que c'est contre Jean-Michel Aulas qui m'agace chaque semaine... C'est un match qui montre bien tous les progrès que l'équipe avait encore à faire, parce qu'encore une fois, à domicile, on met 8-0, on met des 6-2, et à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. C'est un match où l'équipe adverse était très agressive et du coup, Paris avait beaucoup plus de mal à jouer. On a vu que Lo Celso ne pouvait pas être une sentinelle à tous les matchs, absolument, que c'était pour dépanner. On a vu que Kurzawa, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'était plein de petites choses. Moi, c'est ce match-là qui en fait, me reste un peu comme ça. Je me dis vraiment, faut que l'équipe progresse.
Émilie ?
J'en sais rien. Je réfléchis là depuis tout à l'heure.
Je vais te laisser le temps de réfléchir si tu veux.
Ouais, je veux. J'ai pas de bon ou mauvais match. Il y en a pas un qui m'a marqué plus qu'un autre, si ce n'est contre le Real, mais. Mais en Ligue 1, moi, je les ai tous bouffés. Voilà. De toute façon, on est en dents de scie. Enfin, un coup, ils nous énervent, un coup, on les adore. Non, j'ai pas de match particulier.
François Pistéphane.
En Ligue 1 seulement ou en général?
Moi, je comprends. Allez, en Ligue 1.
En Ligue 1, bah, parce que sinon, j'allais citer la double confrontation contre le Bayern qui a été révélatrice de tout ce qui nous manquait pour le haut niveau.
En Ligue 1.
Mais pour revenir sur la Ligue 1, moi, ça va être, je vais retenir le verre à moitié plein et je vais citer le 6-1 qu'on met à Toulouse à la fin de l'été, qui est annonciateur des belles choses qu'on pouvait voir dans cette équipe entre les nouveaux, les anciens. Et pour faire un petit tour sur le live, je vais vous donner un peu l'avis des internautes. Le match qui revient le plus, ça reste quand même le match contre l'OM avec le superbe coup franc de Cavani.
Merci.
Il t'a volé ta saucisse.
C'était ça, parce que tout simplement j'ai aimé l'état d'esprit. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Empêcher Marseille de gagner, pour moi la saison elle était faite déjà, donc ça c'était que du bonheur. Et puis ça a montré aussi que Neymar était fragile dans sa tête, était fragile un peu partout. Et voilà, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais.
De son pied surtout. Il est fragile de son pied.
De son pied, mais il n'était pas que de son pied. Je crois qu'il était aussi de ses nerfs. Parce que si j'ai bonne mémoire, il n'aime pas trop perdre.
Son égo aussi, il est fragile de l'égo quand même.
Donc ça a été un match. Et puis forcément, au niveau du scénario, ce but de Cavani dans les arrêts de jeu, ça n'a pas de prix. Là, oui, j'avoue, j'ai hurlé, je me suis levé. Là, j'étais redevenu un vrai supporter.
Eh bien, écoutez, on va passer à la quatrième partie de cette tribune PSG. On va parler des deux rendez-vous de la semaine. Alors, il y a d'abord ce trou normand face à Caen, et puis le gouffre financier avec ce rendez-vous face à l'UEFA à Nyon. D'abord, le match à Caen.
C'est plus délicat. Hein.
C'est voilà.
Si on peut choisir, ouais, on peut faire.
En tout cas, Bruno, si tu vois l'émission, t'as vu que ça travaille sur le paperboard aujourd'hui.
Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Hein.
C'est le dernier trophée possible de l'année, hein, cette Coupe de France. Possible troisième quadruplé pour le PSG.
Possible, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que il n'y a même pas de question à se poser. Si Paris joue sérieusement, si Paris a envie de gagner.
Mais il faut qu'il soit sérieux.
Sérieux et l'envie de gagner la Coupe de France 2018, Paris gagnera la Coupe de France 2018. Ce sera ni Caen, j'ai beaucoup de respect pour nos amis Canet, ni Chambly ou les Herbiers, qu'empêcheront Paris de gagner. Maintenant, si Paris n'est pas à fond à Caen, et si Paris manque de respect et pense avoir déjà gagné sa finale contre un club de national, alors là, Paris se mettra en danger.
C'est sûr que s'ils font le même match qu'à Saint-Etienne, ça risque de leur revenir un peu dans les dents, parce que voilà, en face, les Canets, c'est un peu la chance de leur vie.
Parce qu'ils vont jouer match de leur vie. C'est match de la saison.
Mais la pelouse, on a des nouvelles de la pelouse ou pas?
Il va faire très beau en Normandie. Il faisait beau aujourd'hui.
Tout
il fait
va
beau
sécher,
demain
là.
Et il fait beau mercredi.
Ouais, ils sont sortis les 7 cheveux là, c'est bon.
Ça devrait bien se passer, elle n'a pas été abîmée. Mais il n'a plus des trompes d'eau.
Le report contre Toulouse.
Alors, Patrice Garand, l'entraîneur Canet, avait justement. S'est un petit peu emporté face aux délégués de la Ligue pour dire voilà, ça a été une décision trop hâtive de
il voulait
reporter
jouer,
ce,
il voulait jouer dimanche.
Et Toulouse voulait également jouer ce week-end. Donc, c'est vrai que du côté Canet, ils sont toujours à la lutte pour le maintien aussi. Donc, ils ont.
Toulouse aussi.
Aussi, Toulouse aussi.
Et oui, puis que la pelouse soit bien abîmée à 3 jours du match du PSG, c'était pas mal pour eux.
C'était pas mal pour eux.
Après, c'est bien, quelque part, qu'on essaye de jouer dans des bonnes conditions et pas dans un bourbier. Et ça aurait pu être ridicule de jouer sur des flaques d'eau où le ballon avance pas. Voilà, moi, je sais pas, j'étais pas sur place, mais je comprends l'enjeu pour Patrice Garand et aussi pour Toulouse. Mais c'est pas plus mal aussi pour la Ligue 1.
Je pense que eux, par rapport, enfin, préfère jouer en même temps que les autres et se retrouver parce que sinon le match va prendre une importance.
Ah non, mais bien
si
sûr.
Ça se trouve, un des deux va être dans une situation terrible. Il y aura ce match en retard et là, c'est plus la même approche.
Oui, et puis en termes de dynamique, c'était bien de jouer là pour enchaîner trois jours après.
Je comprends
le courroux de Patrice Garand. Ouais.
Et côté par
Garand, c'est very bad trip à la mode de camp.
Garros, c'est ma copine, je l'adore, on fait des gros bisous. Magnifique. Elle est canaise, elle est canaise.
Magnifique, magnifique jeu de mots, on la salue. Qui mérite de jouer côté parisien? Parce que voilà, bon, maintenant que le championnat s'est passé, qui...
De jouer mercredi
ouais,
ou
mercredi.
Tu veux quoi? Tu voudrais qu'on mette Ben Arfa capitaine?
Et vous vous souvenez que le dernier match, c'était en Coupe de France contre Avranches au stade d'Ornano.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce garçon n'a pas eu une minute de jeu, il n'en aura pas jusqu'à la fin de la saison.
Et surtout, Unai Emery ne nous a pas habitués à tout changer. Il ne va pas préparer la saison prochaine parce que malgré tout ce que lui dit son président, il ne sera pas là la saison prochaine. Donc voilà, non, il a envie de gagner, il avait envie d'être champion de France. C'est son premier titre de champion avec un club. Il a envie de gagner cette Coupe de France, il a envie de marquer quand même son passage au Paris Saint-Germain. Donc il va continuer avec ses joueurs en forme. Kimpembe qui a pas joué dimanche va rejouer.
Mbappé
va revenir dans la course. Non, il va continuer sa rotation habituelle. Donc peut-être bien Kurzawa. Non, mais il, pour lui c'est un match pas comme les autres. Mais
ils en pensent
comme le dit Bertrand. Emery lâche pas ses matchs et Joigny qui rappelle que la finale de Coupe de France, bon, si on passe Caen donc, peut faire tomber 4 records, c'est-à-dire 4 d'affilée, la plus grosse différence, 5-0, le plus grand nombre de buts, 6-3. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a des records
à aller chercher.
À aller chercher, ouais.
J'ai pas compris ça. C'est des records de quoi? En Coupe de France?
Ouais, en Coupe de France.
Mais Paris a marqué beaucoup plus que 6-3 en Coupe de France. Ah, il parle en finale. D'accord, parce que Paris a gagné contre Cocho de
10-0.
Voilà, exactement.
10-0, tout à fait.
Temps. Mais je pense qu'il parlait de la finale, effectivement. Oui. Et le 6-3, il fait référence à Toulouse-Angers en 1957.
Bravo.
La mémoire du PSG.
C'est un début du quiz. Il auto-gagne.
Je n'étais même pas énervé.
Alors ça, c'est le premier rendez-vous de cette semaine. Il y aura un deuxième qui, vous le disiez, tonton Steph, va être un petit peu plus important et compliqué. C'est celui à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA, avec cette question du fair play financier. Alors, Paris doit trouver environ... C'est 50 millions,
c'est ça? Moi, je pense qu'on ne sait pas.
On ne sait pas trop. Hein.
C'est très difficile. Il y a des supputations. Il y a le compte basique de... Voilà, il fallait trouver 75-80. Il y a déjà Lucas qui a été vendu pour 25-28. On fait une petite soustraction. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on fait rentrer les contrats que le Paris Saint-Germain a avec ses partenaires, s'ils sont revus à la baisse, comme certains ont pu le dire, à 50% ou à 70%, ça changera toute la donne. Je crois que c'est un dossier sur lequel il faut vraiment marcher. On marche sur des œufs et seul le Paris Saint-Germain et l'UEFA ont les vrais chiffres et sont les seuls à même de dire si il va se passer quelque chose ou pas.
Et en plus, pour suivre un petit peu le fair play financier depuis quelques années, les règles sont pas rigides, en fait. C'est que...
Il y a des discussions, des accords,
il y a un peu de souplesse dans les calculs, il y a... Le fait de montrer patte blanche par moment, de faire quelques promesses, de montrer, faire des gages de bonne conduite, peut parfois suffire à passer entre
d'ailleurs
les gouttes.
Lors du dernier,
ce qui est déjà passé. Donc, en revanche, c'est véritablement un très gros dossier parce que effectivement, ça va impacter les futurs mercato et éventuellement même
une participation du PSG à la Ligue des Champions. Ça peut aller jusque là.
Oui. Alors ça, c'est vraiment
c'est le maximum.
L'épée de Damoclès. Oui. Mais ce serait
même pour l'UEFA de...
Ce serait une déflagration.
D'un autre côté, il y a quand même des gens importants dans le football européen qui mettent une pression d'enfer sur l'UEFA. Bien sûr, on pense à la Liga espagnole, on pense au Bayern de Munich et à ses dirigeants qui sont des gens qui comptent sur le foot européen. Donc, moi, tant que j'ai pas entendu l'UEFA dire et le Paris Saint-Germain, c'est bon, on a un accord, on est rentré dans les clous, tout va bien, jusqu'au bout, je serai craintif. Beaucoup plus que j'ai pu l'être pour le titre de champion de France.
Frédéric qui rappelle que le PSG a déjà bénéficié d'un accord, pas certain que ce soit encore le cas.
En tous les cas, il va y avoir une sorte de contre-la-montre pour le Paris Saint-Germain qui va devoir trouver de l'argent.
Un peu ou beaucoup.
Voilà, dans un mercato qui va être assez restreint. Je crois qu'il ouvre le 9 juin et l'argent doit être trouvé avant le 30 juin. Ça laisse 3 semaines.
Et surtout que c'est dont 2 semaines de Coupe du Monde. Donc il ne se passera rien. C'est le début de la Coupe du Monde. Aucun joueur ne signera dans un club en juin. Normalement, ça ne viendra pas. Nicolas. Alors est-ce que ça peut arriver dans
Pastore, il a le temps de discuter normalement.
Mais il n'y a pas que le volet joueur, il y a aussi un volet de nouveaux partenaires, des nouveaux contrats. Le club travaille depuis très longtemps et laisse entendre qu'il pourrait y avoir des annonces assez rapides. Donc ça peut être des revalorisations de ses partenaires actuels.
Ce qui
serait un peu logique. Le changement de dimension.
Le maillot du PSG porté par ceux d'avant est porté par Neymar et Mbappé. Logiquement, ça vaut plus cher.
Et puis l'offensive là qu'a faite Paris et la Ligue de foot sur la Chine, en voulant développer, en vendant la Ligue 1, il y a un moment où il doit y avoir aussi une contrepartie. Et on peut imaginer, voire espérer de la part que le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec un partenaire chinois ou en tout cas asiatique pour aller conquérir des nouveaux marchés. Mais c'est vrai que c'est des dossiers très compliqué, avec des règles fluctuantes, et le Paris Saint-Germain a toujours annoncé être très serein par rapport à tout ça.
Il tremble pas un peu quand même.
Officiellement, non.
Ils étaient prévenus. On peut quand même compter sur le professionnalisme et la rigueur des dirigeants du PSG. Ils se sont déjà fait une fois choper pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Donc moi, j'ai plutôt confiance, même si je resterai méfiant jusqu'au bout. Je pense que Paris était, on dit un homme averti en vaut deux, Paris était averti, donc Paris a dû faire normalement attention. Enfin, je veux dire, si Paris se faisait piquer par l'UEFA, entre guillemets, et ne rentrait pas dans les clous et avait des sanctions, là, ce serait vraiment faute professionnelle, pas grave, dramatique, quoi.
Bah, c'est pour ça que moi, en fait, j'alterne entre confiance et un peu de peur, parce que je me dis qu'ils ont déjà été sanctionnés. Ils ont travaillé leur dossier cet été. Normalement, ils savent que tout se passera bien. S'ils arrivent à se louper là-dessus, c'est un gros problème pour le projet. Parce qu'ils peuvent être exclus de la Ligue des Champions. Et pour eux, c'est trop gros comme risque. Et en même temps, je me dis, à Paris, on ne sait jamais. Et l'UEFA, c'est ses petites surprises aussi. Du coup, il y a toujours le...
Paris, ils savaient que... Enfin, à mon avis, ils ont pris le risque de ne pas être dans les clous parce qu'ils avaient l'opportunité de recruter à la fois Neymar et Mbappé l'an dernier. Et donc, finalement, bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ne crois pas...
Qui sont aussi des actifs colossaux.
Voilà. Mais en plus, moi, comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas à une exclusion. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de l'UEFA ni de personne. Par contre, je vois bien et je prends le pari dès aujourd'hui un petit -2, -3 points dans la phase de poule.
Je t'arrête, c'est pas l'intérêt de l'UEFA. Je pense que la Ligue des Champions se porterait très bien aussi, malheureusement, sans le Paris Saint-Germain.
Enfin, sans Neymar, sans Mbappé,
le Milan AC de Van Basten, Gullit et Rijkaard s'est fait sortir des Coupes d'Europe, a été suspendu pendant une année. Ça a gêné personne.
C'est plus le même foot. Hein.
C'est plus le même foot. T'inquiète pas, c'était déjà pas mal à cette époque.
En tout cas, moi, je table, je sais pas ce que vous en pensez, mais je table sur un retrait de points l'année prochaine.
Émilie.
Je me garderais
bien de faire des paris sur l'éventuelle sanction.
Qui va à ce rendez-vous, en fait? Expliquez un peu. Qui va à ce rendez-vous?
Il y aura Victorien Omenero, il y aura certainement Jean-Claude Blanc, la direction financière. Enfin, c'est assez restreint. Hein. C'est
restreint et haut placé. Et du coup, c'est confidentiel? Ou c'est tu sais, comme au tribunal. Enfin, je pose une vraie question, parce que pour le coup, j'y connais rien.
Tout sortira si des fois Paris était ou suspendu.
Mais ce que je veux dire, c'est pas en séance.
Les audiences sont à huis clos. C'est un tribunal, hein, c'est un échange. L'UEFA est venue régulièrement au siège à Paris. Les représentants de Paris sont régulièrement à Nyon aussi pour échanger. Tout ça est fait dans le maximum de transparence. Paris, de toute façon, a intérêt à collaborer. Il est difficile de cacher, de cacher un certain nombre de problèmes financiers. Voilà. Et Paris a tout intérêt à travailler main dans la main avec l'UEFA pour passer entre les gouttes et démontrer qu'elle respecte les règles.
Et ça sera donc vendredi, donc ce rendez-vous à Nyon, en Suisse. Allez, il reste 5 minutes dans cette tribune PSG, vous l'avez compris, c'est l'heure du quiz, le rendez-vous du lundi avec donc, je vous rappelle le principe, il y aura donc 5 questions en effet, avec donc la tribune, allez, la tribune Borély.
Avec plaisir, on est 2-3, je vois que ça commence bien.
Et la tribune Kids.
Tribune Kids, comme d'habitude.
Eh bah, ben, très bien. Alors je vous rappelle,
ça hein, va bien, que...
celle qui mettait le plus d'ambiance hier soir.
Ouais,
oui, c'est de vrai. Ouf.
On donne donc le nom de la tribune avant la réponse, bien entendu. Sinon, c'est le point à l'autre équipe. Première question. Cavani a égalé le record de 113 buts en Ligue 1, détenu par Zlatan. Mais en équipe nationale, quel est le classement d'El Matador dans l'histoire des buteurs de l'Uruguay?
Deuxième. Borély, pardon.
Non, t'as pas dit Kids.
Non, mais j'ai dit Borély en premier. Et je vais te dire deuxième.
C'est ça. Deuxième. Le point va donc à Borély.
Et qui est le premier?
Qui est le premier? Bah, alors, c'est Suarez ou Forlán?
Eh ben ouais, c'est Suarez.
Suarez
et donc Cavani et Forlán qui complètent le podium. Deuxième question. 7 joueurs ont obtenu les 5 titres de champion de France sous l'ère QSI. Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Javier Pastore, Lucas Moura et
Blaise Matuidi. Borély? Blaise Matuidi?
C'est ça, 2-0 pour Borély. Blaise Matuidi, l'ancien numéro 14 qui a joué.
Nous, on est en tribune morte, en fait. Ouais. Voilà.
Vous faites tribune morte.
La tribune Kids a tout donné hier soir.
Tout ça pour avoir joué 2 matchs hein, en Ligue 1.
Ça suffit.
Ouais, ça suffit pour être champion.
Il y en a qui l'ont été pour 10 minutes.
2-0 donc pour la tribune Borély. Hier, le PSG a gagné 7-1. Mais quelle est la plus large victoire des Parisiens en championnat?
Kids. Contre 3.
En effet, combien?
Ça doit être 9-0. Ou 9-2.
9-0.
Tout à fait.
Match du titre il y a
3 ans.
Il y a
2 ans, 2016.
Ça aurait été bien de préciser en toute l'histoire, parce que moi je pensais que c'était cette saison. Donc voilà.
Si vous nous retirez ce point, on vous retire celui de Cavani, deuxième. On l'avait. Non seulement on l'avait aussi.
C'est bien, c'est bonne ambiance.
On ne savait pas si c'était le classement sur le mois de mars.
Je vais faire la Suisse.
Heureusement qu'il n'y a rien à gagner parce que sinon, je sais pas comment ça.
Non, des fois, c'est
bien l'honneur.
Bien sûr. Demain, pour qu'il y ait un petit peu de suspense quand même.
Allez, voilà. Bah, c'est vrai.
Quatrième question. Combien de matchs sans défaite au Parc en Ligue 1? Là, le PSG sur une série.
Ah, avec la saison dernière. Ça... alors, cette année, il y en a déjà 17. Alors,
il faut rajouter. Borély, 40?
C'est ça.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
3, hein, la 40, la dernière, c'était en dernière défaite du PSG, c'était
mars 2016.
Montpellier en Coupe de la Ligue.
Non, mais en championnat.
Mars 2016, Monaco.
Championnat. Monaco.
Tout à fait. Au cas où.
Toujours.
3. Cette stat, elle est géniale. Les gens ne se rendent pas compte. Pour quelqu'un qui est abonné au Paris Saint-Germain et au Parc des Princes, qui n'a pas vu son équipe perdre depuis 40 matchs, c'est.
On n'imagine même plus qu'il faut perdre quand on y va.
C'est exceptionnel. Profitez de ces moments-là, les amis. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Et aller chanter donc, au
Parc des Princes. Avant, on attendait la victoire dans les 40 matchs. Hein, donc, ça a été un autre temps.
Hein. Il y a 10 ans, pile, on était 18e.
On est quand même mieux là. Hein.
On est mieux.
Ça va.
Ça va. Dernière petite rencontre pour les nouveaux qui sont arrivés en cours de route avec les Qatari, etc.
Oh, bah, 3, il y a déjà, 10 ans, vous avez gagné.
Ouais.
Donc voilà, pour le fun, la dernière question.
Essayez de réduire la marque.
Hier, Neymar a joué au poker. Donc en regardant le match, on le voit sur une photo donc qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Quelle est la main du Brésilien?
Il y a deux tables.
Kids,
il y a deux tables.
Kids ne bouge pas. Kids ne bouge pas.
Je sais même
pas. Kids, pas du tout.
Il a une main avec deux cartes noires.
Je savais pas qu'on faisait un quick-quiz sur les ex-joueurs du Paris Saint-Germain.
Il est là, regardez.
J'ai l'impression qu'il est plus que là.
Il est plus que là.
King Queen.
c'est sa seule présence à Paris.
Tout à fait. Mais moi, ça fait. Même en regardant, j'aurais pas eu la
réponse. Ben moi, en plus,
on pense terrain.
Victoire de Borel.
Excusez-moi, on est d'accord que du coup, c'est comme si j'avais marqué un point.
Tu as marqué un point et vous perdez quand même
avec ton petit point. Elle est contente.
Elle
repart avec son point. Ça lui fait la semaine.
Elle est contente.
Imaginez la fois où elle marquera deux points dans une émission. Alors là,
j'attends la dernière. Encore plus précis, c'est une dame de pique et un roi de trèfle.
Oh, ah oui. Ce que en c'est
fait,
beau.
Ah ben dit.
Ça, c'est ça carré, mérite double joker. Bah, 3, ça fait 3 à 5.
Et, victoire. Et, et le vainqueur paie son coup.
Allez, on y va.
Albert Palzer, bien vu.
En tous les cas, merci beaucoup. Merci Bertrand, donc
merci
du Parisien. Merci d'être venu. Merci à... à Nicolas,
ParisFest.fr.
Merci à vous.
Merci à Émilie, notre dame de clic.
C'était cool.
Merci à François Denat et puis à notre tonton Steph.
Oh, je me barre tout de suite.
Et à tous nos internautes.
Et
aussi,
merci aux internautes qui nous ont suivis
du long, malgré l'absence de notre vénéré Bruno, que tu as remplacé avec brio.
Merci beaucoup.
Ça cuit-cuit, il adore.
Ça cuit-cuit, j'adore.
Merci beaucoup. Prochain rendez-vous football sur l'antenne de France Bleu Paris, ça sera mercredi soir à Caen, match en direct et en intégralité. Demi-finale de Coupe de France, ça sera donc à 21h05 au stade Michel Dornano de Caen. En attendant, bonne soirée sur France Bleu Paris.
Salut.
Salut tout le monde.
Ciao.